continuer sur cette deuxième session avec deux interventions, on va dire, qui font le lien entre les trajectoires sociales et biographiques et l'engagement militant et politique, on va dire ça comme ça. Donc je vais me donner la parole dans un premier temps pour 20-25 minutes environ, et puis Julie Pagis ensuite pour une vingtaine de minutes ensuite, et on aura une nouvelle discussion avant l'intervention de Michel Kobel tout à l'heure. Alors, donc j'ai intitulé mon intervention « Déconstruire son déclassement sur quelques effets biographiques et politiques de la lecture de Bourdieu ». Alors certains d'entre vous ont sûrement vu l'apparition dans le dernier numéro de Genèse d'une autre critique sur le livre de Raphaël de Santi. Donc il y aura quelques répétitions sûrement par rapport à cette note critique, mais je vais essayer un petit peu d'élargir le propos, et notamment par rapport au débat qu'on a commencé à avoir ce matin. Alors, Raphaël citait « Pourquoi Bourdieu ?», le livre « Pourquoi Bourdieu ?». On peut aussi évoquer, entre autres, le danger sociologique comme autant d'illustrations, des controverses, des polémiques qui sont associées à une sociologie qualifiée tantôt déterministe ou tantôt critique, et dont Bourdieu serait le principal fer de lance. On retrouve notamment dans cet ouvrage, mais pas seulement dans cet ouvrage, mais le discours sur la culture de l'excuse, donc, qui était cher par exemple à Manuel Valls ou à Philippe Val, selon laquelle cette sociologie, en cherchant à dégager les causes du terrorisme ou de l'échec scolaire, encouragerait la déresponsabilisation individuelle et la minoration du mérite. Mais à l'opposé de ce type de travaux sur la sociologie structuraliste, déterministe et Bourdieu en particulier, existent des chercheurs en sciences sociales qui rendent plutôt hommage aux vertus mobilisatrices de l'œuvre de Bourdieu. Faire exister cet auteur, qui s'est attaché à dévoiler les mécanismes de la domination et de la reproduction sociale, relèverait, par exemple, selon Édouard Louis, de la responsabilité de l'écrivain désireux de susciter l'insoumission à l'ordre social. Alors, ce débat polarisé entre une sociologie déterministe qui inclinerait au fatalisme, à la résignation, d'un côté, ou à la compréhension et à la recherche d'émancipation collective de l'autre, peut être posé en tout cas, mais à mon sens, ce débat est peu posé, peu nourri via des données empiriques. Et c'est en ce sens que le travail de Raphaël de Santi est précieux. Il existe des références sur les rapports des individus à la lecture ou sur les effets de la rencontre avec Bourdieu sur les parcours d'intellectuels, de sociologues. On a évoqué le livre Rencontre tout à l'heure. Mais je trouve qu'au travers de ces différentes analyses empirique ou autobiographique, il y a une question qui est peu renseignée, c'est celle des effets de la lecture de la sociologie, et en particulier de la lecture de Bourdieu, sur des lecteurs situés hors des classes supérieures et hors du champ académique. Et donc là, à mon sens, Raphaël apporte une première contribution fondée empiriquement par un récit autobiographique sur le sujet. Alors, donc ce que je trouve intéressant dans ce livre-là, c'est qu'il y a une mobilisation du répertoire bourdieusien, mais qui n'a a priori pas d'objectif normatif. Par exemple, réaffirmer la légitimité des écrits de Bourdieu, et notamment leur compatibilité avec son engagement politique et militant à la fin de sa carrière, avec ses travaux sur les médias, par exemple. Là, la mobilisation des écrits de Bourdieu elle vise plutôt à renseigner sur ce que lire Bourdieu veut dire dans le cas des transfuges de classe ou des transclasses selon la terminologie employée. Alors là, ce que je voudrais aborder ici, c'est le fait que c'est pas seulement de Bourdieu dont il est question, mais c'est aussi de déclassement, donc ça on l'a largement évoqué, et donc le livre de Raphaël permet de penser la relation entre mobilité, déplacement social et lecture de Bourdieu. Donc il y a deux points que je voudrais aborder. C'est d'abord rappeler les spécificités de la trajectoire de Raphaël, qui sont propices à la perception d'un monde social différencié, qu'a analysé Bourdieu justement, et donc à la rencontre avec ce type de sociologie. Donc ça, tu l'as aussi évoqué, mais je vais le rappeler. Parce que c'est au regard des conditions de cette rencontre qu'on peut interpréter ensuite, comme je le ferai dans un second temps, quels sont les effets biographiques et politiques de cette révélation de la lecture de Bourdieu. Donc déconstruire son déclassement, ça comprendra à mon sens trois dimensions, c'est-à-dire à la fois le comprendre, ce déclassement et les rapports sociaux qu'il y a derrière, agir contre ou résister face à ce déclassement, et ensuite les possibilités de conversion de l'insatisfaction, de la frustration liée à ce déclassement en un engagement militant sous ces différentes formes. Alors, en ce qui concerne d'abord les conditions, donc de la perception de monde social différencié et de la lecture de Bourdieu, je vais rappeler précisément une spécificité de cette trajectoire, qui est un double déclassement, entre guillemets. Donc, tu l'as rappelé, et Gérard le précise dans la préface de l'ouvrage, c'est un déclassement à la fois de haut en bas, intergénérationnel par rapport à ses parents lorsque Raphaël travaille à l'usine, parents des petites classes moyennes, petites bourgeoisies, et puis ensuite Raphaël qui travaille à l'usine, et un déclassement de bas en haut, qui est là intra-générationnel, où à la suite de la reprise des études et des espoirs d'ascension qui sont associés, il y a au final la profession de travailleur social qui est exercée, qui est un peu la position initiale, qui est celle du père. Donc en gros, c'est un double déclassement de haut en bas, de haut en bas et de bas en haut, qui n'est pas si fréquent que ça dans les analyses scientifiques. Là, je ne m'étends pas dessus parce qu'on l'a déjà évoqué, mais je citerai un exemple d'un ouvrage qui est assez intéressant, je trouve, de Chantal Jacquet, philosophe, sur les transclasses, qui propose une théorie de la non-reproduction à partir de plusieurs facteurs, mais via les trajectoires ascendantes. Donc, ce qui écarte la possibilité de penser l'ascension et la descension chez un même individu. Donc, par exemple, comme l'a fait Paul Pascoli, par exemple, sur les bacheliers des ZEP qui intègrent les classes préparatoires à sciences politiques. Et donc, par rapport à ça, l'ouvrage de Raphaël donne à voir un récit et la manière dont les individus peuvent être affectés par les clivages et les rapports sociaux de classe, et en particulier, comment on peut être amené à développer une conscience diffuse au départ d'un monde social qui n'est pas seulement inégalitaire, c'est-à-dire, tu l'as dit, qui oppose des dominants et des dominés, des propriétaires des moyens de production, des propriétaires de la force de travail, des bourgeois à des camarades ou des capitalistes à des travailleurs, mais aussi un monde social différencié, où il y a d'autres catégories intermédiaires ou situées dans d'autres zones de l'espace social qui rentrent en compte. Et donc, cette perception de monde social différencié, ça me fait penser un peu à ce qu'Olivier Schwartz appelle la conscience triangulaire du monde social, quand il a étudié par exemple les conducteurs de bus du secteur public, qu'il situait selon lui à la frontière entre les catégories populaires et les classes moyennes salariées, qui en gros est frustré d'avoir la sensation de payer pour tout le monde, c'est-à-dire ceux d'en bas, les bénéficiaires des minima sociaux, souvent d'origine immigrée, etc., et ceux d'en haut, responsables politiques, économiques, donc qui ont un pouvoir sur leurs conditions. Et donc pour expliquer cette perception du monde social différencié, il y a trois éléments qui doivent être pris en compte selon moi et qui ressortent du récit de Raphaël. C'est un effet de position donc, que tu as restitué, celle de la petite bourgeoisie, laïcité militante, plutôt communiste et avec une certaine bonne volonté culturelle. Mais pour comprendre ce que tu nommes un habitus clivé, moi je rajouterai deux autres éléments dont tu fais référence le premier dans ton premier chapitre. C'est un effet de milieu social, pas que de position, mais hybride, donc à la fois populaire avec les résidents de la cité HLM que tu côtoies, à l'école et au lycée où tu suis un BEP d'électromécanicien, avec tous les rapports conflictuels que tu as évoqués tout à l'heure, et un milieu bourgeois aussi, qui passe par l'exercice de loisirs distinctifs, la musique, le club nautique, et où la confrontation à ses membres des classes supérieures renvoie parfois un sentiment d'indignité sociale. Donc en résumé, cet écart social, qui est permanent, hein, que ce soit en milieu bourgeois ou populaire, participe à cette conscience pratique au départ des différences de classe et à un profond sentiment d'injustice. Donc après l'effet de position, après l'effet de milieu social, donc je rajouterai un dernier élément sur lequel insistait Bourdieu aussi, c'est l'effet de trajectoire, et en particulier des verdicts scolaires. Le sentiment d'échec scolaire, et en particulier un capital culturel hérité et incorporé qui n'a pas été suffisamment sanctuarisé par des titres scolaires, par des diplômes, bah, participer à un désajustement permanent avec les positions que Raphaël a pu par la suite, que ce soit à l'usine quand il lit des livres de philosophie et donc il est rappelé à l'ordre par certains ouvriers, ou comme aide documentaliste dans l'enseignement secondaire, donc tu l'as dit aussi, où tu étais un des seuls à ne pas être diplômé du baccalauréat et de l'enseignement supérieur, ou en tant qu'éducateur, où tu t'es senti à distance des travailleurs sociaux et de leur doxa qui renseigne une sorte de psychologisation et individualisation des rapports sociaux. Donc à mon sens, c'est pas seulement pour dire quelles sont les conditions de perception d'un monde social différencié, c'est aussi, je pense que tu veux le souligner dans le livre, c'est pour aller aussi au-delà d'une lecture substantialiste de la stratification sociale, notamment une sorte de dépassement d'une lecture marxiste du monde social, et ce serait là un des apports de Bourdieu que l'on peut retirer, à mon avis, de ton témoignage. Il y a aussi un renseignement sur la sociologie du travail, mais ça, j'en parlerai pas trop. On aura une intervention cet après-midi de Maxime Quijoux, parce que cette trajectoire, elle est traversée par une diversité de mondes professionnels et avec des contraintes qui leur sont propres, de la domination capitaliste et de la dureté du travail ouvrier, à ensuite la domination culturelle et à la servitude de la relation de service dans les emplois aidés de la fonction publique. Et donc ça, je pense que c'est intéressant parce que, comme tu le dis, il y a de plus en plus maintenant d'individus qui sont peut-être amenés à circuler dans des univers professionnels en raison de la hausse de la précarité et de la massification scolaire. Donc, qu'en est-il de la lecture de Bourdieu à travers cette trajectoire? Donc, tu précises dans le livre que tu parles de structure mentale qui était disposée à cette lecture de Bourdieu. Un regard critique qui demandait à être outillé intellectuellement. On peut faire peut-être le parallèle avec les intellectuels ou sociologues dominés dans le champ ou d'origine dominée socialement. Et une soif de revanche qui avait amené à lire des ouvrages de littérature sociale et surtout philosophique, un peu désordonnée, mais qui valait aussi certaines sources de satisfaction et de gratification auprès de la famille et de l'entourage. Donc c'est par rapport à tout ça qu'il faut interpréter la révélation de Bourdieu, au travers de ses conditions d'accès et d'orientation. Donc, les espérances initiales du lecteur, les conditions matérielles et culturelles qui le rendent possible, et ensuite un ensemble d'incitations et de sollicitations, notamment du corps enseignant en sociologie, qui ont accompagné un parcours d'autodidacte. Alors, il me reste au moins une dizaine de minutes pour aborder mon deuxième point, donc je suis à peu près dans les temps, c'est bien. Après avoir analysé cette trajectoire et les conditions sociales d'accès à la lecture de Bourdieu, j'ai repéré à peu près quatre principaux effets, à la fois biographiques et politiques, de la lecture de Bourdieu. Un premier effet biographique sur lequel je ne m'étendrai pas, parce que je pense que c'est le plus celui qui vient peut-être plus évident, c'est la légitimation culturelle, au sens où l'appropriation de cet appareillage conceptuel encourage dans la reprise d'études, et jusqu'à publier des ouvrages de méthodologie et de sociologie, et ça favorise aussi certaines interactions. Enfin, en tout cas, réduit un peu le sentiment de malaise dans certaines interactions. Je me rappelle, tu pourras compléter peut-être, mais d'un trajet de train en présence de militaires où on te questionnait sur... Tu arrivais, entre guillemets, à parler de Bourdieu et intéresser les militaires, à ta grande surprise. Et donc voilà, c'est une des anecdotes, a priori, plus ou moins anodines, mais qui sont révélatrices aussi de l'intérêt qu'on peut se porter à soi-même et l'intérêt qu'on peut susciter des autres grâce à une lecture sociologique et en l'occurrence à forte charge théorique, pardon, qui est celle de Bourdieu. Deuxième effet biographique, c'est qui est bien connu aussi, mais c'est la mise à mot d'expériences vécues et une dénaturalisation de la domination. Cet effet, il se mesure notamment par rapport à la philosophie, qui était une littérature la plus légitime, mais peut-être trop désincarnée à tes yeux, pour comprendre les rapports sociaux de classe qu'on peut traverser au cours de sa trajectoire, et ce que la distinction, en l'occurrence, a pu apporter. Donc, comme d'autres écrivains ou sociologues, il y a Annie Ernaux, par exemple, ou Édouard Louis, ou Marc Joly aussi, ici présent, tu loues la force d'une sociologie qui est d'ambition totale, c'est-à-dire une sorte de théorie générale sur le monde social, et aussi qui est soucieuse de vérification empirique. Donc ça, c'est important par rapport à la lecture, aux spécificités de la lecture sociologique, et qui est celle de Bourdieu, par rapport à la philosophie, parce qu'elle rend compte des pratiques et des jugements ordinaires. La distinction, il y a des photos, il y a des chiffres, il y a des extraits de journaux qui rendent palpables des rapports sociaux autrement qu'au travers d'une théorie ambitieuse. Ces résultats, moi, ils m'intéressent notamment en comparaison, en confrontation avec l'analyse que tu fais des représentations étudiantes de la sociologie, et où on voit que la majorité des apprentis philosophes considèrent la sociologie comme une science localisée qui ne serait pas à même de raisonner sur l'individu, l'universel, la société en général. Et on pourrait se demander d'ailleurs, c'est une réflexion là aussi qui pourrait paraître secondaire, mais le coût d'accès à la lecture, la difficulté de lire Bourdieu est souvent quelque chose qui lui est reproché, mais il me semble qu'on le fait moins souvent à la philosophie. Donc, c'est peut-être un élément de discussion tout à l'heure, mais la plus grande légitimité peut-être qui est accordée à cette discipline épargnerait, comme aux sciences dures par exemple, le souci de vulgariser, de rendre simple le langage qu'on utilise. Mais ça, c'est un autre débat. Troisième effet de la lecture de Bourdieu, on rentre un peu plus dans des considérations politiques, c'est des moyens de résistance au déclassement. Donc là, Raphaël n'y voit pas une sociologie inhibitrice, déresponsabilisante ou pessimiste, mais qui permet de mieux comprendre, accepter et lutter contre son déclassement. Tu évoques notamment dans le livre la lettre que tu rédiges dans un journal local qui reprend une offre d'emploi adressée par Pôle emploi pour ironiser sur la proposition d'un travail de désosseur par heure qui contraste... c'est le moins qu'on puisse dire, par rapport à des études de sociologie et des emplois de travailleurs sociaux. Donc, on a un cas où on peut constater, en dépit des différentes précautions qu'il faut prendre par rapport au récit autobiographique que tu as soulevé, où la lecture de Bourdieu a plutôt des vertus libératrices et qui favorise ici, en l'occurrence, l'insoumission à l'ordre social. Parce que cette lecture de Bourdieu... et le travail de vulgarisation que tu as entrepris, notamment via la liste champ, peut être interprété, à mon sens, comme un moyen aussi de convertir des affects tristes ou négatifs, comme l'insatisfaction, la frustration, en un langage militant sous différentes formes. Alors, frustration relative évidemment aux dispositions contradictoires qu'on peut entretenir avec ces groupes d'appartenance, frustration relative à un sentiment d'échec scolaire ou aux épreuves répétées de la précarité dans différents milieux professionnels qui engendrent une certaine colère plus ou moins diffuse par rapport à la société. Et donc même si cette insatisfaction n'explique pas en soi l'engagement, il me semble que c'est un des facteurs explicatifs de l'orientation de Raphaël vers la lecture de Bourdieu et de l'usage critique et militant qu'il en fera par la suite. Et donc ce serait peut-être une voie à poursuivre aussi pour faire le parallèle avec les chercheurs du monde académique. Ça demanderait des enquêtes empiriques davantage approfondies. Donc au moyen de résistance au déclassement, il y a un dernier effet politique là aussi de la lecture de Bourdieu, sur lequel je voudrais terminer parce qu'il me semble que c'est un des plus importants, c'est qu'elle peut offrir un instrument de déconstruction et de dénonciation de l'ordre social. Ça permet d'apporter un regard complémentaire sur des réflexions contemporaines sur le déclassement. On parle régulièrement de panne de l'ascenseur social ou de dérive des classes moyennes. François Dubé, par exemple, part d'un constat, selon lui, d'un affaiblissement du sentiment d'appartenance de classe et d'un accroissement de la mobilité sociale, il y voit une explication au fait que le déclassement serait de plus en plus perçu comme un échec individuel ou comme le signe d'une discrimination, ce qui pourrait nourrir les discours d'extrême droite. D'un autre côté, Camille Peny, lui, bon, il insiste plus sur les enfants de cadres déclassés, il insiste plus sur les permanences de la reproduction sociale, mais il y a des constats plus ou moins similaires, au sens où ces cadres, dans leur groupe d'appartenance, seraient plus amenés à développer des dispositions autoritaires, et notamment une plus grande hostilité envers les destinataires des politiques sociales, chômeurs, bénéficiaires des minima sociaux, etc. Bref, les assistés, qui contrairement à eux, ne travailleraient pas suffisamment, et, etc. Et ce qui pourrait être, selon lui, un facteur d'attraction du Front National qui valorise les valeurs du travail et du mérite à l'opposé de ces assistés de l'État social. Donc là où je veux en venir, et j'ai 5 minutes pour terminer là-dessus, c'est que la lecture de Bourdieu offre une perspective inverse. La lecture de Bourdieu, elle ne fait pas, à l'occurrence, que conforter une critique du libéralisme, qui est également d'ailleurs portée par le FN et qui est issue de l'héritage social et familial de Raphaël, mais c'est que cette lecture de Bourdieu, elle opère une inflexion dans la manière de voir le monde social, au sens où elle oriente cette critique du libéralisme, non pas vers la stigmatisation ou la responsabilisation des plus démunis, mais vers une dénonciation des structures sociales, de leur fonctionnement. Dénonciation que tu as d'ailleurs essayé de faire, que ce soit à l'école, aux écoles de travailleurs sociaux, à l'université dans les cours, sur la liste champ, etc. Et donc, à l'opposé des travaux dénonciateurs ou anticipateurs sur les effets de la lecture de Bourdieu, je trouve que c'est un témoignage intéressant, surtout si on le rapporte au contexte actuel, où il y a notamment des discours qui s'élèvent sur les dangers d'un précariat qui serait en accroissement. Par exemple, précariat, c'est un néologisme qui associe prolétariat et précarité pour les réunir dans un même groupe social. L'économiste Guy Standing, par exemple, parle d'un précariat qui prendrait effet à l'échelle mondiale et qui concernerait environ 40% de la population des pays développés, qui réunirait des immigrés, des saisonniers, des précaires de la fonction publique, etc. Et il parle d'une classe sociale en devenir qui partagerait la même conscience d'une même vulnérabilité qui pourrait les diriger vers des partis extrémistes ou populistes. Alors, il peut y avoir un intérêt de souligner les tensions entre la hausse de la précarité et la hausse de l'inflation des diplômes, donc qui produit des situations de désajustement. Donc ça, c'est un des enjeux des analyses du précariat. Mais à mon sens, une telle analyse globalisante nie justement l'hétérogénéité sociale et professionnelle que peut constituer le groupe des précaires, tant au plan de leur position, de leur trajectoire ou de leur disposition, avec le risque de réifier des catégories qui, en fait, en soi, dans la réalité, sont probablement pas existantes. Et donc, je terminerai là-dessus. L'ouvrage de Raphaël de Santi donc, est un des, à ma connaissance, un des premiers qui nous permet de situer à la fois les conditions d'accès à la lecture de la sociologie, et un certain type de lecture de sociologie, en l'occurrence bourdieusienne, de situer le rapport à cette lecture, et donc de sortir des analyses non fondées empiriquement. Et donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une journée salutaire par rapport à ce débat-là. Voilà.
La parole. On donne la parole à Julie, et il y aura une discussion ensuite. Hein.
Merci. Merci de m'avoir proposé de participer à cette journée. Donc, je vais commencer par dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à te lire, Raphaël, que ce livre, ton livre, je ne vais pas pouvoir tout dire là, mais il m'a ému à de nombreuses reprises. Comme tu as parlé tout à l'heure du fait que tes enfants faisaient du piano, j'avais la scène où tes parents t'emmènent faire une audition au conservatoire, elle est d'une violence, et je venais de revoir le film Billy Elliot, je ne sais pas si vous voyez, où quand il passe l'audition, quand il monte à la capitale pour passer l'audition de danse, je pense que c'était assez similaire. Mais aussi les descriptions des allers-retours entre le club d'aviron et le BEP d'électromécanique, les scènes de cantine au lycée technique et comment est-ce que les hiérarchies sociales au sein du lycée technique se voient dans des choses aussi quotidiennes que est-ce qu'on va se ruer sur la table, comment on va manger, quelle part on va prendre, etc. Je trouve que toutes ces descriptions sont extrêmement riches. Et courageuse aussi. Alors j'ai dit le livre m'a émue. Je l'ai trouvé courageuse. Bah, je trouve que effectivement, ce pari de l'auto-socio-analyse non complaisante oblige à évidemment revenir sur ce qu'on a tous eu, hein, des perceptions des autres empreintes de racisme de classe. Enfin, je veux dire, je pense que c'est des choses qu'on a tous à un moment ou un autre, mais que de les dire, c'est autre chose. Et voilà, ce livre m'a enfin touchée en faisant écho à de nombreuses situations et sentiments que j'ai pu ressentir moi-même dans mon enfance ou plus tard lors de ma découverte de Bourdieu, qui a également provoqué chez moi un effet de révélation et qui a été à l'origine de ma conversion à la sociologie, hein, puisque je l'ai découvert tardivement. J'étais élève à l'École normale supérieure en géologie et c'est en lisant « Questions de sociologie » lors d'un stage de terrain où on mesurait des failles que je me suis dit, je suis mal orientée. Et donc, c'est vraiment comme ça que j'en suis venue à la sociologie. Du coup, voilà, je vais revenir. Ça va pas être très construit. Je m'excuse un peu. Je voulais plus travailler cette présentation. Mais donc, je vais faire plutôt des petits points sur à la fois ces proximités biographiques et en même temps, sur plusieurs choses. Donc, il faut commencer quand même par dire ce qui a été un peu dit, mais c'est dans le cadre de mon enquête de thèse que j'ai rencontré Raphaël la première fois en 2004, si je ne me trompe, à Nantes. 2006, bon, ben je me trompe donc. En effet, Raphaël, tu appartenais enfin au corpus de familles sur lesquelles j'ai enquêté, familles dans lesquelles les parents, l'un au moins, avait participé aux événements de mai juin 68 et qui avaient scolarisé leurs enfants. C'est comme ça que j'ai construit le corpus à partir de deux écoles publiques expérimentales. Et il se trouvait qu'il y en avait une à Paris et une à Nantes. Donc des écoles dans lesquelles un certain nombre de 68ards ont scolarisé leurs enfants dans les années 70. Et une de ces deux écoles, l'école Ange-Guépin, était située dans le quartier populaire de Malakoff à Nantes, quartier dans lequel les parents de Raphaël ont vécu au cours de ton enfance et dans lequel ton père, que j'ai appelé effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, François dans la thèse et dont la trajectoire fait l'objet du chapitre, d'une grosse partie du chapitre 4, dans lequel cette école, dans laquelle ton père était impliqué professionnellement et politiquement, hein, comme animateur socioculturel et comme militant de l'éducation populaire. Et impliqué notamment dans la création et la mise en place de cette école ouverte, hein, pratiquant une pédagogie freinée, de toutes les réflexions sur les CLAE, la place des parents, la notion de coéducateur, etc. Donc, voilà. Et donc, c'était mon premier long terrain de thèse. J'étais logée chez Marie Cartier j'ai rencontré plusieurs enquêtés pour réaliser des entretiens, donc à la fois avec des ex-68ards et avec leurs enfants passés par cette école. Et du coup, bah, voilà, j'ai été reçue chez toi, où j'ai pu t'interroger sur ton enfance, les pratiques militantes de tes parents, les pratiques pédagogiques qu'ils mettaient en œuvre dans la sphère familiale auprès de ta sœur et de toi. Autrement dit, toute une série de questions liées à la socialisation primaire, pour le dire vite, familiale, mais également scolaire. Et du coup, je rejoins en fait une des interventions, et en même temps, je sais les limites de... J'ai été forcément étonnée et en même temps, je crois que tu m'y as partiellement répondu, de ne pas retrouver davantage de développement dans le livre, et notamment en particulier sur le premier chapitre sur la jeunesse d'une structure mentale disposée à la découverte de Bourdieu, bah, sur les pratiques éducatives que tu as connues enfant, que ce soit dans la sphère familiale ou dans la sphère scolaire, alors qu'elle me semble effectivement incontournable pour qui veut réfléchir aux conditions sociales de la transmission ou justement de la non-transmission des héritages familiaux, qu'ils soient culturels, politiques, économiques, effectivement, aux conditions de dilapidation familiale, d'héritage, etc., et également aux conditions de la réussite scolaire. Donc, en même temps, je suis bien placée pour savoir que l'économie des relations intergénérationnelles dans ces familles sont parfois délicates, pour le dire avec pudeur, et tu n'auras peut-être pas envie de répondre dans le détail à ces questions. En même temps, comme tu présentes ce livre comme une ébauche d'auto-socio-analyse, effectivement, je ne pouvais pas ne pas poser ces questions. D'autant que tu livres des éléments riches, hein, page 28, 29, 30, sur l'environnement culturel, politique et familial. Hein. On est dans le bain, l'abonnement à l'UMA, les polars, le jazz noir américain, les chanteurs engagés, les bons contre les salauds capitalistes. Du coup, pour quand même essayer de poser une question à laquelle tu puisses répondre sans rentrer forcément dans le détail complexe, je le sais, des relations intrafamiliales, j'ai essayé de formuler autrement pour te demander, est-ce de l'autocensure ou est-ce que tu penses que cette question des pratiques éducatives, parentales et scolaires, que moi j'ai pu qualifier de contre-culturelles, quand en tout cas elles étaient marquées par l'importation de dispositions militantes dans la sphère familiale et scolaire, du militantisme politique, avec une vision de subversion de l'ordre familial et scolaire, un peu sur le mode de l'utopie de l'homme nouveau. Pour changer le monde, il fallait commencer par changer le quotidien, les rapports de domination parents-enfants, hommes-femmes. Mais est-ce que tu penses que ça n'a pas été déterminant dans la jeunesse, pour reprendre le titre du chapitre 1, d'une structure mentale disposée à la découverte de Bourdieu ? Voilà. Et peut-être que, comme je sais, tu m'as dit que c'était compliqué peut-être de parler ici des relations familiales, mais peut-être par contre sur les scolarisations alternatives, peut-être sera plus simple là d'avoir aussi ta réponse sur cette question-là. Et aussi sur le sentiment de déclassement. Alors à ce propos, j'enchaîne sur un deuxième point lié justement à la question du déclassement en revenant sur une phrase que tu écris page 19. Avec laquelle je ne suis pas certaine d'être d'accord, mais je ne suis pas sûre que tu es d'accord non plus. Donc je te cite. « Mon cas me semble être une illustration parfaite, pour ne pas dire caricaturale, de la reproduction sociale. Mon père était travailleur social, ma mère auxiliaire peu éricultrice. Je suis recrutée aujourd'hui comme moniteur éducateur dans un établissement médico-social, un espace qui réunit le travail social et le soin. » Alors, je ne pense pas, pour tout dire, que tu incarnes un cas de reproduction sociale parfaite. Et je pense pas que tu le penses, en tout cas, voilà, mais déjà beaucoup de choses ont été dites. On voit bien que ta trajectoire, elle est marquée par des phases de mobilité sociale contradictoires, des fois, effectivement, une mobilité intergénérationnelle qui peut être qualifiée de descendante, et après, des mobilités ascendantes. Donc, et d'ailleurs, sur cette question de la profession, finalement, père-fils, puisque c'est à ça que tu fais référence en partie, il me semble que tu le dis bien, que l'orientation de ton père vers le métier d'animateur socioculturel dans les quartiers populaires dans les années 70 relevait alors d'un choix, on va mettre des guillemets évidemment, d'un choix politique. Là où dans ton cas, tu dis bien que là tu parles d'un choix de nécessité pour échapper à la précarité dans le monde de l'enseignement et de la recherche en sociologie. Du coup, c'est juste pour continuer à dire ce qu'on a dit sur cette trajectoire marquée par des phases non habituelles quand même de mobilité sociale, de franchissement des frontières sociales diverses. Je me posais aussi la question de pourquoi ne pas avoir replacé le déclassement, enfin tes déclassements, dans la pente des trajectoires des deux lignées familiales, parentales. Parce que si je ne me trompe, et là sans vouloir non plus trop ou sans pouvoir trop en dire, il me semble que tes deux parents ont eux-mêmes connu des trajectoires de déclassement, reclassement par rapport à leur famille d'origine et dans les deux cas avec des ruptures d'adhésion à l'ordre familial. Voilà, je me demande s'il n'y a pas, si du coup cette question de la mobilité sociale gagnerait à être réencastrée sur plusieurs générations. Mais sans en venir à ta position actuelle, cette question du déclassement et du sentiment d'être déclassé se pose comme très tôt dans ta trajectoire, comme tu le racontes à la fin du chapitre 1, sur laquelle aussi je voulais revenir rapidement. Page 41, t'écris « Je ne me sentais ni prolo, ni bourgeois, ni au milieu. Je me sentais déclassé, mais doux, et jamais à ma place durant toute ma scolarisation. » Alors, cet extrait, il m'a touchée, ce qui renvoie exactement à ce que moi aussi j'ai pu ressentir très longtemps, enfant, avant de comprendre le « mais doux ». Moi, mes parents, ils sont partis élever des chèvres, donc ils étaient paysans. Et puis du coup, je ne me sentais pas du tout à ma place. Et très longtemps, je me suis vécue comme une dominée, parce qu'on était ceux qui ramenaient les poux, on était sales, on était des enfants drogués, etc. Donc c'était une stigmatisation, un rabaissement. Et sauf qu'effectivement, le « mais doux », je trouve, était difficile à cerner. Et alors là, je parle... Enfin, c'est une question aussi. Il me semble que c'est aussi parce que nos parents ont justement pris soin de rester inclassables, de brouiller les pistes, de faire perdurer la mise en suspens des hiérarchies routinières, en trouvant, en s'inventant, en redéfinissant des positions caractérisées par une relative indétermination sociale. Et donc, je sais que moi, c'est que très tardivement, en lisant les romans d'Annie Ernaux, que j'ai trouvé les termes pour exprimer ce vécu, sauf que là où elle s'insurgeait contre la domination de classe par l'excellence scolaire, dans mon cas, les expériences précoces de stigmatisation, il me semble qu'elles sont aujourd'hui, je peux dire ça, moins directement liées à des différences de classe qu'à des différences Ça qui est difficile à mettre des mots dessus, des différences culturelles entre établis et marginaux, entre le côté contre-culture qui était effectivement complètement opposé aux habitants du village dans lequel j'ai grandi. Donc ce qui me permet d'enchaîner sur un autre point qui fait écho cette fois-ci, puisque tu me l'avais demandé un petit peu, aux travaux qu'on mène avec Wilfried Ligné sur les enfants, et en particulier sur les perceptions enfantines des différences sociales. Donc dans ton ouvrage, tu reviens sur quelques scènes évidemment hyper intéressantes. Quand tu écris que tu te revois à l'école primaire et au collège, traiter quelques camarades de classe de sales capitalistes, sans que ces derniers comprennent ce langage, ce qui avait pour effet de redoubler leur colère, je continue à te citer, à mon égard, quand ils ne me traitaient pas de petit intellectuel, de PD ou de tapette. Il me semble qu'il y a, dans cet extrait, il y a vraiment plein de choses intéressantes. On retrouve alors ce qu'on a pu qualifier avec Wilfried de recyclage symbolique, hein, dans lequel les enfants recyclent des schèmes d'évaluation, de perception, de classement que leurs parents ou enseignants ou amis leur assènent quotidiennement au cours de leur propre socialisation, mais que eux recyclent dans d'autres domaines de la pratique pour juger des professions, des personnes ou ici des pairs. Là, le schème travailleur capitaliste, salaud capitaliste est utilisé pour déprécier en fait des camarades qui le saisissent pas forcément. Mais cet extrait souligne un autre point qui me semble très important, la co-construction de l'ordre des classes et de l'ordre des sexes, puisque pour exprimer une distance sociale, ces enfants, garçons, appartenant aux classes populaires, te traitaient de PD ou de tapette. Et il me semble qu'on est proche là du modèle formulé par Paul Willis, dont on n'a pas souvent, enfin pas assez souligné, il me semble, qu'il répond par la question du genre à sa célèbre question de savoir pourquoi les enfants d'ouvriers deviennent eux-mêmes ouvriers. Hein, et en insistant sur des logiques de genre, hein, ces enfants deviennent ouvriers avant tout parce qu'ils veulent rester des hommes, des vrais, pas comme ces femmelettes que sont les faillots, les bourreaux en classe. Enfin, autrement dit, je trouvais juste, c'est pas une question ça, mais que dans ce petit extrait, on voyait bien que ces rappels à l'ordre du genre étaient et sont tout à la fois des rappels à l'ordre social. Alors, je vous ai prévenu, c'était décousu, donc je passe à un quatrième point que j'ai intitulé « Déclassement ou déplacement à l'origine de la rencontre avec Bourdieu ». Dans lequel, finalement, je voulais un peu questionner le titre de la journée sur les lectures de Bourdieu en situation de déclassement. Enfin, j'étais pas très sûre au début. Est-ce que d'ailleurs, déclassement... Enfin, la question, c'est est-ce que seulement le déclassement par le bas constituerait un terreau favorable à la rencontre avec les livres de Bourdieu ? Alors, il est évident pour nous tous que non, et que j'imagine du coup que derrière le terme de déclassement, il y avait aussi le déclassement par le haut. C'est juste que souvent dans déclassement, on entend mobilité sociale descendante, mais du coup, je n'étais pas sûre que ce soit très clair et que je trouvais que c'était autant parler de mobilité sociale descendante ou ascendante. Et en fait, en plus, il me semble qu'il faudrait aussi élargir au déplacement social. Alors, je sais que ça pose problème parce que déplacement peut devenir un peu... on peut y mettre un peu tout et rien, mais en même temps, comme tu... enfin. Ce point est parti du raisonnement de me dire, moi, je ne suis pas du tout une déclassée. Et pourtant, j'ai ressenti exactement la même chose que ce que tu décris sur qu'est-ce que procure, pourquoi on ressent des affinités avec cette sociologie de dévoilement, de critique de la domination sociale, etc. Et du coup, il me semble qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites des fois que pour les transfuges ascendants, et qui vont en fait pour le déclassement, la mobilité sociale descendante. Mais il y a aussi énormément de choses qui sont dites là, qui sont liées, il me semble, plus généralement, mais comme tu le dis aussi, à un désajustement d'être dans une position qui n'est pas celle, en gros, dans laquelle on a construit notre habitus, pour le dire un peu comme ça. Et du coup, inclure dans cette... il me semble qu'il faudrait inclure dans cette journée, dans cette réflexion... alors, certains parlent aussi de mobilité horizontale. Pourquoi pas? En fait, je ne suis pas encore vraiment sûre de ce qu'il faut mettre derrière. Mais en tout cas, voilà, il me semble qu'il est certain que pour les transfuges de classe ascendant, comme tu l'as rappelé, les affinités entre les intellectuels de première génération, tu as utilisé le terme tout à l'heure, peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est en gros ceux qui étaient les premiers de leur famille à obtenir le bac et à faire des études supérieures. alors que j'ai rencontré en nombre dans le cadre de ma thèse, là, la génération des parents, hein, notamment la lecture des héritiers. Dans les récits que j'ai faits avec les ex-68ards, la lecture des héritiers dans les années 60, ouais, a également eu un effet de révélation, hein, a également eu des effets libérateurs et des effets de politisation, comme de nombreux enquêtés ont pu me le relater en entretien. Donc, comme je dois aller court, là, je passe. J'ai développé ça dans ma thèse, et puis ça a été beaucoup travaillé par Annie Ernaux, par Gérard Mouget. Mais donc, pour en rester aux quarantenaires d'aujourd'hui, il me semble qu'un nombre important de sociologues du politique, militants, d'une manière ou d'une autre, et marqués par Bourdieu, l'ont été du fait d'expériences sociales de désajustement, déplacement, qu'elles s'accompagnent ou non de déclassement. Ce qui s'explique, à mon sens, par les affinités importantes entre la réflexivité induite par une position de déplacé, une sociologie du dévoilement et la critique sociale par diverses formes de militantisme. Et ainsi, dans l'analyse des profils collectifs d'enfants de 68ards, que j'ai essayé de mener un peu dans la thèse, je te rangeais, Raphaël, dans une sous-population dans laquelle je me rangeais également, un profil de jeune chercheur. Oui, c'est ça, il faut préciser que quand je t'ai rencontré, donc en 2006, tu étais en cours de thèse.
Je devais repartir sur une autre thèse.
D'accord. Donc, en tout cas, je te rangeais dans ce profil, dans cette sous-population de jeunes chercheurs. Alors, il faudrait peut-être enlever le jeune aujourd'hui, mais j'ai du mal à m'y résoudre. En sociologie ou sciences politiques, qui travaillent sur le politique. Et en fait, je l'analysais comme un des arrangements mis en œuvre par certains enfants de 68ards pour faire face à ce que j'appelais la dissocialisation, en reprenant le terme, je crois, à Lahire, le fait d'avoir intériorisé des systèmes de disposition partiellement dissonants, justement, du fait des forts déplacements dans l'enfance, des franchissements de frontières sociales dans l'enfance. Et en gros, il me semblait que travailler sur le politique, c'était un des arrangements possibles pour répondre à cette question existentielle de quelle est ma place dans ce bas monde, une des quatre postures que j'ai qualifié en m'appuyant sur les travaux de Gérard Mouget sur les migrations de classe, de posture réflexive. Alors peut-être pour le dire plus simplement, pour des enfants qui ont été éduqués comme nous dans l'idée qu'il ne faut pas accepter l'ordre social dominant, à qui les parents ont appris en quelque sorte à ne pas adhérer aux normes dominantes, pour le dire vite là aussi, mais on se retrouve tous d'une manière ou d'une autre à un moment confrontés à devoir se reclasser, se classer, trouver sa place, ça n'a rien d'évident. Et donc, en fait, puisqu'il s'agit en effet de devoir s'adapter, s'intégrer tout en restant soi-même, sans renier l'héritage politique et ou contre-culturel, et il me semblait que faire de cet héritage politique un objet d'étude, ou travailler à partir de Bourdieu sur les ressorts des rapports de domination, constituait un des moyens mis en œuvre par ces enfants de 68ards enquêtés pour faire face à ces injonctions contradictoires. C'est du moins l'analyse que j'en faisais, et du coup, à propos de laquelle je serais intéressée de savoir, du coup, là aussi, ce que tu en as pensé, toi, si tu t'y retrouvais ou pas du tout. Voilà. En tout cas, dans ce cas, je te rejoins entièrement quand tu écris que lire Bourdieu peut apparaître comme une possibilité constructive de se libérer de soi. Moi, j'ai adoré cette formule que je vais reprendre en te citant, bien sûr, puisque je la trouve belle et juste. Et d'ailleurs, on pourrait ouvrir un cabinet de sociothérapie. Et vu le titre de la communication de Gérard, j'ai le sentiment qu'il voudrait mettre un peu de beurre dans les épinards de la retraite en ouvrant un cabinet de sociothérapie. Et il me reste une minute. Et en fait, j'avais un dernier point, et que je ne savais pas si j'allais oser le faire, mais comme il y a des copines dans la salle, que j'avais intitulé « Faut-il avoir des couilles pour se sentir profondément bourdieusien ?» Alors pourquoi dire ça? J'aurais aimé beaucoup plus travailler cette partie, et donc je préfère tout de suite dire que ça va être vraiment du ressenti, et que je ne voulais pas non plus m'en tenir au mode de la polémique, mais en même temps, polémique, c'est-à-dire que quand on voit le programme de la journée d'études, oui, on se pose la question de pourquoi je suis la seule fille. Est-ce qu'il y a une réception particulièrement masculine à la sociologie de Bourdieu? Voilà, puis on sait que certains cercles, justement, on parlait des premiers, deuxième ou troisième cercles, il y a des cercles quand même très masculins. Et donc, il me semble que c'est pas anodin, et que, en fait, ça gagnerait à être analysé plus longuement. Et comme ça, à chaud, pour finir, juste quelques petites hypothèses ou idées. Hein, il me semble que que pour qu'il y ait cette affinité et cet effet de révélation, de rencontre, tout ce que tu racontes et tout ce qu'on a dit jusque-là avec la sociologie de Bourdieu, il faut être en colère, avoir des dispositions agonistiques, aimer le conflit, vouloir en découdre, vouloir montrer aux autres qu'ils se trompent et que la vérité n'est pas si simple. Hein, et cette question, effectivement, de vouloir dire... voilà, qu'on retrouve évidemment dans le militantisme, hein, avoir des dispositions à dénoncer et convaincre. Peut-être, mais là aussi, c'est pas assez développé. Souvent, je me suis dit, il faudrait qu'on réfléchisse à qu'est-ce que ça veut dire avoir un habitus minoritaire. Ça renvoie peut-être aussi à la question des dominés dans un champ, mais moi, j'y pensais surtout dans la politique. Qu'est-ce qui fait qu'on certains vont toujours se retrouver dans des micro-partis qui vont faire 0,2% et dans lesquels, on se divise constamment par rapport à des habitus majoritaires. Donc, en tout cas, autant de dispositions ou de traits qui apparaissent particulièrement différenciés en fonction du genre. Et là, il me semble que les travaux sur la socialisation enfantine montrent en effet, que les formes du conflit dans les groupes de pères, des groupes de pères, comme vous le savez, quasiment non mixtes, enfin, ça dépend des âges, mais voilà. Je pense à un travaux d'une anthropologue américaine, Marjorie Goodwin, sur les groupes de pères et en ethnographie, où elle montre comment est-ce que les formes du conflit sont extrêmement différentes entre, dans les groupes de pères de garçons et les groupes de pères de filles. Et qu'il se manifeste dans des rapports, des rappels à l'ordre incessants. Par exemple, une fille qui va se distinguer ou qui va dire qu'elle n'est pas d'accord, elle va être tout de suite cassée, alors que donc il y a vraiment un enjeu dans le groupe de pères à ne pas se distinguer, à éviter le conflit. Alors il y a, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit dans les groupes de pères féminins, c'est ça qui est très bien dans ce livre. On voit bien évidemment qu'il n'y a pas une idée que les filles seraient moins conflictuelles. Sauf qu'effectivement, il y a une sociogenèse de disposition à gérer le conflit de manière extrêmement différenciée, voilà. L'aversion pour le conflit est nettement plus importante chez les filles que chez les garçons. Ça, on le voit dans le travail qu'on fait avec Wilfried sur des filles de 6-7 ans qui disent qu'elles voudraient pas du tout être, faire de la politique ou être présidente. Et on voit que, dans leur réponse, que cette question du rapport au conflit est extrêmement importante. Et donc voilà, je m'arrête là parce que j'ai déjà dépassé mon temps, mais pour dire qu'il me semble que problématique, c'est un grand mot, mais en tout cas, il me semble qu'il faut poser la question du genre de la réception et des usages sociaux de la lecture de Bourdieu.
Je vais donner la parole à Raphaël, étant donné que tu as eu plusieurs questions.
Ton intervention est tellement dense que je ne sais même pas sur quoi rebondir, hein, ça me dépasse un peu, mais je l'ai trouvé vraiment très riche, tu as souligné beaucoup, beaucoup de choses. Là, tu fais raison de le souligner, dans mon bouquin, je n'ai pas aborder les aspects de l'éducation contre-culturelle de la part de mes parents, de mon père en particulier, parce que je craignais de la réception brûlante de mon livre par rapport à mes parents. Hein. Donc j'hésite même à t'en parler. Hein. Mais il y a une espèce de rancœur infantile, bon, c'est à moi d'apprivoiser ça, d'avoir ce sentiment, qui est peut-être infondé, d'avoir été un peu lâché voilà, dans l'éducation scolaire, et que j'ai dû me débrouiller avec ça. Et que cette éducation alternative par l'école Freinet, hein, où j'étais inscrit pendant une partie de ma scolarité en primaire, bah, du coup, elle ne me cadrait pas, et puis ça m'a perdu. Hein. J'ai profité du cadre, je travaillais pas mes devoirs à la maison. Et puis quand le bulletin tombait, bah, alors je me faisais très allumé. Hein. Donc voilà, il y a une espèce de rancœur qui fait que c'est des choses un peu compliquées pour moi à aborder. Puis je voulais pas gâter non plus mon récit, parce que j'insiste quand même, bon, c'est quand même l'histoire de ma découverte de l'œuvre de Bourdieu. Alors, est-ce que je vais trop insister sur les aspects trajectoire familiale, personnelle, etc. Ça risque, voilà, c'était autre chose à la limite, ça aurait été trop long, quoi. Hein. Et puis, bon, j'avais l'inquiétude, mais est-ce que je vais pouvoir publier mon manuscrit? Est-ce que c'est bien la peine d'aller tartiner 150 pages pour ne pas pouvoir éventuellement se faire publier? Donc, j'ai limité aussi les risques. Je me suis dit, je vais faire un livre pas trop long. Ça va être lu, parce que maintenant, les gens lisent plus. Ils vont souvent sur Internet. Bon, voilà, ça passera peut-être. Hein, mais tu as tout à fait raison de souligner ça. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Oui, c'est juste comme ça pour rire. Avec Wilfried, vous parlez du recyclage des schèmes symboliques de perception. Et moi, je m'étais dit, c'était à la fois sérieux et par humour, c'est qu'avant le recyclage symbolique, il y a le tri sélectif quand même. Hein. Non, mais c'est très sérieux ce que je dis là. Par exemple, quand deux semaines avant Noël, j'avais 10 ans, je voulais commander des jouets à Noël, j'avais le petit catalogue, et puis je tombais sur des petits personnages, des militaires, des jeeps. Je voulais ça, moi, à Noël. Mais mon père disait non. C'est militaire et c'est capitaliste. Donc c'est non. Hein, voilà. Donc de fait, bah non, je ne pouvais pas avoir ces choses-là. Hein. Donc il y a des opérations de tri en amont quand même, qui sont intéressantes à souligner, qui soient explicites ou implicite. Voilà. Bon, j'avais pensé à ça parce que je trouvais ça assez drôle de le dire. Tu parles, alors il y avait un mot qui me gênait, un concept, c'est justement la dissocialisation. Parce que je trouvais qu'il y avait une résonance un peu médicalisante. Hein, quand on parlerait de la dysphasie, de la dyslexie, au fond, est-ce que les enfants héritiers de la génération 68 seraient des handicapés de la socialisation? Bon, je ne sais pas. Il est vrai que ça pose quand même, c'est vrai, quelques difficultés à ces enfants-là, hein, héritiers de ces générations qui ont fait 68. Voilà. Par exemple, ma sœur, je vais en parler très très peu, c'est un profil très différent de moi. Voilà, hein. Elle serait vraiment dans ce type-là, hein, de dissocialisation dont tu parles. Hein. Et elle le paye assez cher, c'est assez compliqué pour elle. Hein. Avec une vie un petit peu marginale, c'était pas très simple. Alors que moi, j'ai plutôt l'impression d'être un peu plus dans une norme, finalement, du coup. Hein. Voilà. Bon, je vous réponds un peu maladroitement parce que je n'ai pas l'habitude hein, d'entrer dans des discussions dans ce cadre-là. Donc, voilà ce que je pointais. Il y avait tellement de choses dans ce que tu as dit que je ne pouvais pas rebondir. Juste une petite chose, tu disais à propos du fait qu'on en demande beaucoup à la sociologie, qu'il faudrait qu'elle soit claire. Ben, la réponse, elle est simple. Tu l'avais donnée dans ta contribution dans le livre dirigé par Louis Pinto, Bourdieu sociologue aux éditions Fayard. Tu avais dit, sans doute... parce qu'il y a des attentes fortes vis-à-vis de la sociologie, qu'on demande à ce qu'elle soit claire, explicite, parce que des gens ont besoin de comprendre déjà pour eux-mêmes. Donc si c'est compliqué, les gens sont livrés à eux-mêmes avec leurs malheurs sociaux. Hein. Donc c'est pour ça. Les attentes sociales sont très très fortes de ce côté-là. Bon voilà, après on peut lancer hein, la discussion vers d'autres personnes de la salle.
Pour réagir sur deux, trois éléments... Je n'ai pas forcément des réponses, des questionnements, par exemple, sur le cas de Raphaël n'est pas un cas de reproduction parfaite. Je ne sais pas, il faut peut-être distinguer ce qu'on met derrière reproduction, parce que, alors, tu l'as dit, et je te rejoins, il peut y avoir un héritage de la part des parents de ne pas être situé, ne pas être classé, être pluriel, etc. Donc ça, c'est... Mais en même temps, cette pluralité et cette volonté de subversion, elle est aussi héritée, et donc elle est située entre en partie déterminée. Donc, c'est un débat qui reste ouvert, mais est-ce qu'on peut dire aussi que c'est quand même un cas de reproduction, et notamment, à travers ces volontés d'alternative de subversion, il y a quand même une sorte d'intériorisation des légitimités culturelles et scolaires qui me semble Raphaël a aussi porté dans sa trajectoire. Donc c'est une forme de reproduction aussi d'intérioriser des critères dominants relatifs à l'école et notamment par l'intériorisation des verdicts scolaires. Donc ça mériterait peut-être toute une réflexion sur est-ce que les petites mobilités sociales ou les grands déclassements ne sont pas aussi des cas de reproduction comme les autres. Alors après, ça peut devenir un peu tautologique au sens où ce serait toujours de la reproduction. Mais voilà, c'était une manière de poser la question. Sur déclassement et déplacement, oui, il peut y avoir des déplacements sans forcément un déclassement. Bon, je pense que dans le cas de Raphaël, on peut parler de déclassement, mais voilà, ça je ne vais pas m'avancer plus là-dessus, mais on peut parler de mobilité horizontale. Bourdieu parlait de déplacements transversaux qui faisaient se déplacer d'un champ à l'autre, par exemple. D'ailleurs, de petits déplacements sociaux. Bon, voilà, il y a une sorte de diversité de terminologie sur laquelle on peut peut-être réfléchir pour pas homogénéiser à outrance, mais pour se mettre d'accord sur certains termes. Et dernier point, je ne veux pas être trop long pour laisser place à la discussion, sur le fait d'avoir des couilles pour parler de Bourdieu. Je te rejoins sur les dispositions agonistiques et je pense que c'est un des effets aussi. Il y a une affinité avec la sociologie de Bourdieu, qui est une sociologie du dévoilement, qui peut procurer un sentiment de puissance. En fait, on révèle les choses et on se confronte. On anticipe qu'il va y avoir des résistances à la sociologie, donc ça suppose aussi de devoir se confronter aussi à ces résistances. Donc ça, je pense que c'est un point intéressant. Et peut-être qu'on ne le souligne pas assez, Bourdieu insistait aussi sur le parallélisme entre les rapports sociaux de classe et de sexe, et notamment dans la distinction sur les classes populaires et dominées. Il disait que les différences sociales se retraduisaient dans les différences de sexe, c'est-à-dire si on était un peu, entre guillemets, distingué parce qu'on lisait des livres, c'était de l'hiérarchie des rapports de sexe qui retraduisait des rapports de classe. Je ne sais pas si je l'exprime bien, mais et en gros, ces différences de sexe s'amenuisaient à mesure qu'on s'élevait dans la hiérarchie sociale. Donc un exemple était que la tolérance, par exemple, à l'homosexualité s'amoindrissait dans les zones les plus élevées de l'espace social. Mais aussi parce qu'il y avait un effet de milieu social, c'est-à-dire dans les aires urbaines, dans les aires cultivées, etc. Donc cette correspondance entre les différences sociales de classe et de sexe était aussi pensée par Bourdieu. Alors après, on peut débattre de la place qu'on accorde aux propriétés secondaires, aux propriétés principales. Donc ça, c'est notre débat. Voilà,
C'est vrai que comme vous, j'avais un peu tiqué sur cette... Vous me comprenez ou pas? J'ai besoin du micro.
Merci.
Oui, sur cette idée de reproduction sociale caricaturale, ce qui est caricatural, c'est de revenir finalement à un point de départ après avoir cru soit régresser, soit monter. Et c'est ça, en fait, que je pense que tu voulais dire, Raphaël. Effectivement, ce n'est pas une reproduction sociale mécanique, au sens où on était programmé pour occuper la place du père, mais ça s'est fait par des chemins différents, et ça rappelle toute la force de pesanteur, le champ de pesanteur du monde social, en fait. Donc on revient finalement à une position qui est très proche de celle du père, même si elle est différente quant à la manière dont elle est occupée, ce qui a mené aussi à l'occupation de la position. Mais c'est ça qui rappelle la pesanteur terrible du monde social. Et c'est en fait ça le côté du livre qui rend la lecture fascinante, c'est qu'on est pris avec quelqu'un qui nous raconte ses... Et comme en plus tu cites des lettres que tu écris à différents moments à Bourdieu. Par exemple, la lettre de 98 que tu écris à Bourdieu, dans cette lettre, tu te dis dominé au passé. Donc c'est assez frappant. C'est-à-dire, je l'ai relu, je me dis, quand tu dis dominé, j'étais dominé, ou etc. La lettre de 2002 est déjà un peu différente. Donc on te suit, finalement, avec des moments où on se dit, il va y arriver, et puis t'es rappelé, finalement, par une sorte de pesanteur. Et c'est ça que je trouve qui est absolument fascinant. C'est en cela où la reproduction sociale... Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En ça, c'est presque caricatural, quoi, en fait. C'est comme ça que j'ai compris ta formule, en fait, qui, effectivement, m'a fait tiquer aussi comme...
Mais je pense que j'aurais dû rentrer un peu plus dans le détail de ce déclassement par rapport à mes parents. C'est pas grave, mais quand je dis que je deviens travailleur social un peu comme mon père, je rappelle que j'occupe une position inférieure à la sienne. Voilà, j'ai rappelé que j'occupais un emploi de niveau 4. Mon père a été directeur d'une maison de quartier. Il avait des bons revenus. Bon, il a une retraite correcte. Donc moi, finalement, il y a une reproduction, mais quand même, finalement, elle reste quand même assez déclassée. Hein, parce que j'avais utilisé dans le livre surtout le terme générique de travailleurs sociaux. Alors on y met beaucoup de choses dedans. Hein, il y a des gens de toute formation dans cette catégorie-là. Hein. Donc oui, je deviens travailleur social comme mon père, mais dans les emplois inférieurs, hein, du point de vue des salaires, etc., des qualifications. Hein. Bon, voilà, c'est vrai que je n'ai pas creusé ça, parce que le livre était peut-être un petit peu ailleurs, je ne sais pas.
Juste un mot très, très vaseux, sans doute, sur la dernière réflexion de Julie, que je trouve tout à fait intéressante, stimulante en tout cas, hein, qui est la question qu'elle posait des rapports genrés à la sociologie de Bourdieu. Alors évidemment, il faudrait savoir ce que ça veut dire sociologie de Bourdieu. Si on l'entend comme une sociologie de la domination, pour faux, quoi, comme une sociologie de la domination, on pourrait penser que voilà, étudier la domination, c'est étudier le conflit. Bon. Je pense que... voilà. Alors, premier point de ce que je voulais dire. Deuxième point, tu avances l'idée les filles nourriraient une forme d'aversion pour le conflit, alors que les garçons, de façon générique, seraient porteurs de dispositions conflictuelles, agonistiques, machin, etc. Alors, je trouve que, ces deux propositions qui me semblent intéressantes, mais très approximatives. Voilà. Alors, c'est simplement ça que j'aurais suggéré. C'est à la fois que la sociologie de la domination de Bourdieu, c'est un truc super compliqué. C'est pas le manifeste du Parti communiste, hein, la distinction. C'est une chose bien plus compliquée que ça. L'analyse des modalités des rapports des dominés à la domination chez Bourdieu, c'est une chose très compliquée, problématique d'ailleurs. On peut discuter, moi je discute d'ailleurs. Je trouve que c'est il y a matière à discussion là-dedans. Voilà, c'est une chose extrêmement complexe, enfin je crois. Hein. En tout cas, l'idée qu'il en, qui le type d'analyse qu'il en propose, c'est une chose compliquée. De la même façon, tu disais, Julie, je crois que tu as raison, que l'opposition garçon-fille avec des garçons agonistiques, presse, bastonnés, tous uniformément, et puis alors des filles angéliques qui ne veulent pas de conflit du tout, je crois que c'est un peu plus compliqué. Voilà. Alors, je pense que c'est bien plus compliqué que là aussi. Alors, ça rejoint mon premier propos à propos de Bourdieu, c'est que les modalités de gestion du conflit ou les formes du conflit, comme les formes de l'évitement des conflits, etc., ça indique à la fois chez les garçons comme chez les filles, je crois, hein, même s'il y a des différences, j'en doute pas, mais il faudra préciser lesquelles, des modalités de gestion des rapports de domination, à la fois du côté de la position dominante ou de la position dominée, quoi. C'est des formes, finalement, hein, de gérer les rapports de domination dans les deux positions qui sont compliquées, voilà. Plus compliquées, je crois, que, finalement, un truc de « je fuis le conflit » ou bien « je me bastonne », quoi. Voilà, il me semble que c'est une piste intéressante, mais voilà, c'est dans... Pour ce qui est des garçons et des filles, pour ce qui est de Bourdieu, c'est compliqué.
Sur le fait que ça se passe à l'université, quoi, en gros, ton retour un peu, la tentative de reprendre un peu une trajectoire ascensionnelle, ça se passe à l'université au début des années 90. Tu arrives à l'université, tu te mets à accumuler des titres scolaires, comme ça, moi. Mais au moment où plein de gens font la même chose, comme ça, et où ces titres, d'une certaine façon, perdent en rentabilité, non ? Et tu fais jamais le choix, alors même que ça se met en place à ce moment-là, d'aller vers les DESS, par exemple. Tu vas chercher un DEA, etc. Bon. Et pourquoi, au fond ? Et encore aujourd'hui, puisqu'on en a parlé, bon, tu pourrais, tu as des ressources pour ça. Tu pourrais, la formation continue, tu as travaillé dans un service de formation continue et tu as formé des gens qui faisaient ce choix-là de sortir d'une fonction strictement travailleur social, prendre des fonctions d'encadrement via des masters, etc., puisque tu as enseigné là-dedans, et tu ne fais pas ce choix-là encore aujourd'hui, et on en a parlé, bon, et tu ne veux pas, bon. Alors pourquoi, et qu'est-ce que ça doit, là aussi, bon, ton parcours, ta socialisation, et peut-être aussi familiale, etc., bon, vous voyez, le côté un peu, quoi. Et l'affinité avec la sociologie de Pierre Bourdieu de ce côté-là, est-ce qu'elle ne t'empêche pas aussi de regarder la discipline autrement, quoi, comme finalement quelque chose qui peut être aussi quelque chose comme une compétence monnayable un peu sur un marché du travail, toi, là, le travail social, etc. Bon, tu vois, parce qu'il y a une vision de la discipline peut-être très intellectualisée dans ce sens-là. Bon. Enfin bon, c'est des questions comme ça, mais...
Je réponds vite fait comme ça, mais maladroitement.
Pour conclure,
parce qu'il faut quand même avancer
Raphaël,
aussi. C'est vrai qu'au départ, moi, quand je suis entré en sociaux, bon, derrière, j'avais lu beaucoup de sociaux, j'idéalisais beaucoup Bourdieu. D'ailleurs, dans mon livre, je me moque de moi-même, hein, dans ce rapport-là. Voilà. Je voulais tenter quelque chose, d'aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, c'était la thèse. J'ai tenté ça, j'ai pas réussi. Mais j'ai quand même rebondi, quand même. Tu dis, tu aurais pu faire un DESS, un truc professionnalisé. Bon, j'ai fait un diplôme d'État d'éducateur spécialisé, formation s'il en est, vraiment professionnalisé, qui donne normalement du travail. Bon, sauf qu'il y a aussi un chômage, une précarité des travailleurs sociaux, il faut le savoir, selon le type de secteur. Hein, dans le secteur du handicap, bon, c'est un choix personnel qu'il faudrait questionner aussi, il y a un gros chômage. Alors dans le Var, c'est épouvantable. Hein. Même les travailleurs sociaux qui sortent des écoles sont obligés quasiment de se reconvertir, de faire autre chose. Quoi. Hein, les places sont très chères. Donc tu vois, je rectifie ça. Ensuite, tu me dis, oui, tu as participé à des maquettes de formation quand je travaillais à Brest, mais je n'étais pas à l'aise là-dedans non plus. Enfin, je le dis un peu dans mon livre aussi, hein, il y avait un problème aussi de compétences aussi, voilà.
C'est juste que par rapport, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Nicolas et ce qu'a dit Gérard. Deux points. Sur les différences de sexe, alors évidemment que j'ai dit de manière un peu à la hache, très vite, et du coup je me suis excusée par avance exprès pour ça, cette opposition garçon-fille sur la socialisation, la sociogénèse de dispositions agonistiques ou non, évidemment que c'est pas tous les garçons vont être dans le conflit et toutes les filles vont être dans l'évitement du conflit, bien sûr, mais néanmoins... C'est jamais de façon, en sociologie, c'est toujours un raisonnement probabiliste. Donc c'est juste de dire que, comme on le ferait pour la classe sociale, que parmi les garçons, eh ben, il y a un pourcentage, un écart statistiquement significatif dans ce type de disposition. Et par contre, évidemment aussi, du coup, à la fin, j'ai fait un peu rapidement, j'ai introduit cette opposition garçon-fille, qui est évidemment, qui prend des formes évidemment différentes, à la fois quantitativement, donc là j'en reviens à la question parce que je suis pas d'accord. Il y a beaucoup de personnes qui disent les différences de sexe diminuent en montant dans la hiérarchie sociale. Notamment quand on travaille sur les enfants, la question de, est-ce qu'on a une éducation qui différencie nettement les garçons et les filles, il y a cette idée un peu rapide que la différence, l'écart en gros de genre est beaucoup plus important dans les classes pop que dans les classes sup. C'est faux, et là, pour le coup, il y a une vraie différence dans les fractions culturelles ou économiques des classes supérieures, avec effectivement des formes de pratiques éducatives moins différenciées selon le sexe au pôle culturel des classes sup, mais par contre, pas du tout au pôle économique des classes supérieures. Donc là, pour le coup, il faut vraiment, effectivement, rentrer dans le détail de ces écarts, et puis aussi des modalités qu'elles prennent. Mais du coup, Gérard, on aura le temps d'en reparler, mais quand même, ce travail d'une anthropologue linguiste américaine sur les groupes de pères enfantins, ce qui était génial, c'est qu'en plus, elle juste enregistré, on voyait que les groupes de pères, les garçons, sur la socialisation à la compétition, ne cessent entre eux, puis ça va, c'est un jeu. Ils n'arrêtent pas de se classer, de mettre des notes, même quand c'est juste celui qui a fait l'arbre droit le plus haut, elle était dans les milieux noirs américains très populaires, et elle les observe à la sortie de l'école quand ils sont dans la rue, sans adultes. Et du coup, elle voit les modalités de contrôle social de ces groupes de pères, et j'ai trouvé que c'était fantastique sur cette question de différence garçon-fille, puisqu'on voit bien cette question de se comparer, se distinguer, fait partie constamment des groupes de pères de garçons, alors que pour les filles, non pas qu'elles ne se comparent pas, mais dès qu'il y a une tentative de distinction, de dire moi-je, il y a l'exclusion du groupe de pères, qui peut être extrêmement violente. Elle voit une fille qui, parce qu'elle s'est habillée un peu beau, enfin un peu, elle est traitée de « t'as cherché à faire ta belle », elle est exclue du groupe de pères, et donc, alors que chez les garçons, ils régleraient ça par un bon fight, et puis après, le lendemain, on se compare sur autre chose. Et donc, voilà, j'ai dû le dire vite, mais en tout cas, je trouvais que c'était très parlant et très empiriquement fondé, ce travail.